Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis dépendant.
Salut Virginie.
Je suis content d'être dans une salle de réunion narcotique anonyme. En général, je commence toujours mes partages par ça. Parce que c'est important que je me rappelle que c'est vraiment une bonne chose que je sois ici. Je suis assez impressionné. En fait, des fois, je ne crois pas que j'ai 18 ans clean. Il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai dû oublier un jour où j'ai consommé et je ne l'aurais pas dit. La réalité, c'est que non. C'est que depuis que je viens à Narcotique Anonyme et depuis que j'ai juste dit un jour, en levant la main, que j'étais dépendant et que j'avais envie de consommer, je suis devenu clean. Et depuis, je suis resté. Du coup, j'ai 46 ans. Pour faire court sur mon enfance, je calculais là tout à l'heure dans la rue. À 7 ans, mes parents divorcent et je reste avec ma mère. Ça, c'était un premier gros changement dans ma vie. Je ne vais pas trop parler de mon enfance, je vais juste dire 2-3 caractéristiques. En fait, moi, je préférais être avec mon père qu'avec ma mère. Ma mère m'a maltraité pendant des années. Des fois, quand je fais l'humour noir, par exemple, je dis que quand je dormais dans le compteur électrique sur le palier, j'étais détendu. Voilà, je dormais sur mes deux oreilles. Ça donne un peu le climat qui pouvait régner. C'est quelqu'un qui a essayé de me tuer 2 fois. Bon, et... voilà, j'ai un père qui ne m'a pas énormément défendu vis-à-vis de cette corrosion assez longue. Alors j'ai grandi au milieu de ça, j'ai grandi aussi au milieu de plein de gens qui étaient bons. Mon père et ma mère n'étaient pas que ça d'ailleurs, ils m'ont appris aussi pas mal de bonnes choses dont je me sers aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir pris une très très bonne direction au départ. Et vers l'âge de 10-11 ans, je commence à voler des médicaments à ma mère pour pouvoir mourir parce que la pression est trop importante à la maison. J'y arrive pas. Et les premières nuits blanches que je passerai à ne pas dormir, c'est à obséder comment la tuer. Ça dure un assez long moment et puis je vais m'enfuir plutôt que de mettre à exécution cette solution. J'ai globalement toute mon adolescence pas mal fui, vu que je changeais à pas mal d'endroits entre ma mère, chez mon père, en pension, etc. Je tissais pas de lien, ou très peu de lien avec les gens, en tout cas pas de lien durable. Pour moi, l'abandon était quelque chose d'assez... un peu une règle de fonctionnement. On va dire que de 11 à 17, je vais... d'échecs scolaires croissants, j'ai des bonnes capacités, mais comme je fais rien et que... l'école ne donne pas très très bons résultats. Et je vais d'échecs croissants à commencer à sortir à 13 ans. Je prends instantanément une première cuite. Après, je bois. Ensuite, je découvre le shit. Et la consommation reste à peu près comme ça jusqu'à 17 ans. J'ai quand même des valeurs qui sont assez tordues. Je suis quelqu'un d'assez effrayé, qui a du mal à dire la vérité, qui ment beaucoup, qui vole ses parents pour pouvoir sortir, défoncer. On va dire que je ne mets pas en œuvre beaucoup de qualités qui font qu'on peut arriver à tenir la route. Et puis, mon père va décéder d'un AVC à l'âge de 17 ans. Qui va me contraindre de retourner à Paris et de retourner chez ma mère. Et en fait, cet événement va être le déclencheur de ma dépendance active, en fait, telle qu'on la voit ici. Et je vais de 17 à 27 jusqu'au jour où je viens ici. Je vais consommer de plus en plus toutes les drogues qui sont possibles. Je prends ce qui vient. Les quantités sont pas très importantes. la porte. Et surtout, pendant toute cette période-là, en fait, ce que j'identifie pas, c'est que j'ai un problème de drogue et que je suis dépendant. Pour moi, ce n'est que la continuité de mon enfant jusqu'à 27 ans. C'est juste que la vie, c'est un problème. Et que, voilà, j'ai une vie de merde. Et je suis malheureux là-dedans. Ouais, je suis pas quelqu'un d'épanoui. Donc, à 22 ans, je suis... j'allais dire une première fois SDF, mais pas loin. Bon, je suis SDF à 22 ans. Et puis, mon frère me rattrape un peu du bout des bras, me met dans un appart, je trouve un boulot. Et puis, voilà, je me retrouve seul. Et en fait, par contre, le travail va devenir assez structurant pour moi, parce que c'est un truc auquel je vais m'accrocher jusqu'à temps d'arriver à Narcotique Anonyme. Et du coup, je vais beaucoup contrôler pour tenir le coup. Je vais beaucoup travailler pour pouvoir me défoncer, et je vais beaucoup me défoncer pour pouvoir travailler. Voilà, ma vie, globalement, c'est ça. La dernière année de ma consommation, j'ai quasiment perdu la totalité de mon autonomie. Ça fait que je suis capable d'aller de chez moi à mon travail quand on m'y emmène. Et quand on vient me rechercher, je suis capable peut-être d'aller de temps en temps acheter des disques et sinon de me défoncer dehors. Mon univers globalement se restreint à ça. Je suis avec une femme qui est capable de me prendre en charge mais que je n'aime pas. Et en fait, en 97, j'ai une maison dans le Midi et mon frère y habite. Où on est tous les deux dépendants là-bas. Là-bas, c'est des orgies à n'en plus finir. C'est un lieu aujourd'hui où je peux plus mettre les pieds parce que c'est trop pour moi aujourd'hui de retourner là-bas. Et en fait, il sort avec une fille avec qui il a rompu. Et je vais sortir avec elle, et en fait, cette fille, elle me dit qu'elle est déjà venue à Narcotique Anonyme, qu'elle a déjà été clean, on se défonce ensemble, voilà, et puis je vais t'entendre dans le Midi, je vais la voir, on se défonce, on discute. Et puis un jour, elle va me présenter un basique, le bouquin bleu. Elle va m'ouvrir une page, je vais le lire, et puis... ça ne me parle pas plus que ça, je comprends même pas de quoi ça parle. La dépendance, quel lien avec moi. Bon. Voilà, et puis, ce que je vais retenir dans une des conversations, c'est qu'elle me dit, tu sais, Virgile, en fait, tu n'as pas l'impression de t'en rendre compte, mais tu as quand même la tête de l'emploi. Et un jour, je vais t'emmener en rue. Bon. Ça va se passer encore 5-6 mois. Et puis, un jour, Natacha... vient à Paris pour me ramener mon chat. Et je me souviens, elle me dit au téléphone, tu sais, je vais t'emmener en rime. Et ma seule réponse que je vais lui faire, c'est je lui dis, tu sais, j'attends que ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment, c'est ce qui sort au moment où elle me le dit, quoi. Je vois très bien la scène. Voilà, donc elle vient un vendredi, je vais aller chercher à l'aéroport. On s'arrête à une pompe à essence, j'achète 2-3 bières, je les consomme rapidement en faisant le plein. Les deux d'ailleurs, de la bagnole de moi. On va à Blanche, à Sainte-Rita, là, au premier étage. Et en fait, c'est le message de quelqu'un qui a 7-8 ans clean. On arrive à la fin, je comprends pas pourquoi les gens applaudissent. Voilà, c'est fini, du coup je m'en vais, et puis on va manger chez les Curtons, le petit restaurant, je crois qu'il n'existe plus maintenant depuis un moment, qui est dans le boulevard un peu plus loin. Bon, voilà. Et le lendemain, elle me dit, écoute, on va retourner en réunion, on va aller dans le 13e, ok. Non, on va à Saint-Paul, dans... Et donc là, à Saint-Paul, c'est une salle qui est plus petite que ça, plus longue. Il y a 50 ou 60 personnes. Moi, je suis là, j'écoute les gens. Je me dis, putain, mais de quoi ils parlent. Mais ils sont ouf, les gens. Non, c'est pas possible. Voilà. Et je me souviens, le modérateur, à la fin de la réunion, il dit, il y a quelqu'un qui a envie de consommer, qui... Alors moi, je lève la main, je dis, ouais, moi, j'ai envie de me défoncer. Donc il me demande si je suis nouveau, j'ai dit oui, je lui dis mon prénom. Il me dit que je suis la personne la plus importante de la réunion, et puis... En fait, je lui dis, tu sais, j'en ai vraiment rien à foutre, quoi. Ça m'intéresse pas, ce que tu me dis. Ça n'a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Et la réunion se termine, on vient m'amener un porte-clés dans la rue, un porte-clés blanc, parce que même pas, j'ai attendu ça. Et ça montre quand même que je suis complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer, en fait. La réalité, c'est que je suis conscient de rien du tout. C'est que j'ai une vie de merde, et je suis à un endroit visiblement qui pourrait faire vaciller ma vie, mais je suis totalement hermétique à ça. Et c'est pas une volonté de ma part, c'est que ça m'est totalement abstrait. Voilà. Et passe l'après-midi ensemble, et on retourne dans le 13e, donc là c'est la fin de la réunion, du coup on va bouffer. On va bouffer dans un restaurant chinois qui, à mon avis, n'a pas des très, très bonnes qualités culinaires, mais bon, c'est pas très grave. Évidemment, les dépendants sont habitués. Moi, de toute façon, le goût, j'en ai pas. Voilà. Et puis, voilà, on papote une heure, deux heures. Et puis, Cyril, il est à la table. Et puis, au bout d'un moment, voilà, il commence à me partager son expérience. Je comprends rien. Il me parle de ses histoires. Ouais, et puis vraiment j'identifie pas, quoi. Moi j'ai pas cette vie là droguée, tu vois. Puis mon problème c'est pas la drogue, quoi. La réalité c'est ça, c'est que dans la discussion c'est pas la drogue mon problème. J'ai une vie chiante, mais c'est pas la drogue. Et puis il me dit qu'il sait pas où dormir, mais je dis, tu sais, si tu veux, je peux t'héberger chez moi. Voilà, on ouvre la partie. Je dis, bon, faut que t'attendes 5 minutes quand même que je monte chez moi ranger, ce qui est vrai, mais. Je vais quand même descendre une demi-bouteille ou une tiers de bouteille de whisky qui traîne, je tairai la marque. Et puis voilà, tout le monde monte, écoute de la musique, on parle, puis c'est la fin de la soirée, Cyril reste dormir, et puis en fait, on dort pas la nuit. J'ai quelqu'un à côté de moi qui va me parler, va écouter les problèmes de vie que j'ai, etc. Je vais lui lâcher des trucs que j'ai jamais dit à personne. Voilà, et je pense que je retiens rien de cette soirée, de mon état. Et on se quitte, il est 9h du matin. Et en fait, le truc qu'il me dit, que je dis à chaque fois à nouveau, hein, quand il y a des nouveaux dans la salle, il me dit, tu sais, Virgile, tu pourrais faire un truc. C'est, écoute, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est pendant 3 mois, tu es abstinent. Tu vas pendant 3 mois en réunion. Tu fais ce qu'on te dit, tu vis à la mode de Narcotique Anonyme, et si ça te fait chier, si ça ne donne pas des bons résultats, va faire autre chose. Et ça, c'est une idée qui me dit quelque chose. Ça, je me dis, tiens, pourquoi pas. Bon. Quoi, c'est au moins quelqu'un qui va pas me dire, fais ça. Il va juste me dire, tu sais, tu pourrais peut-être essayer. Et puis... je ramène cet ami qui m'emmenait en réunion à l'aéroport. Et sur le chemin du retour, en fin de compte, j'ai une énorme envie de mourir et de me suicider. S'il n'y a pas quelqu'un dans la voiture, je pense que je le fais. Parce que ce que je réalise, c'est que, en fin de compte, depuis l'âge de 20 ou 21 ans, où je ne suis plus en contact avec ma famille, où mon père est décédé, ma mère n'a plus pouvoir de nuisance sur moi. Globalement, si j'ai une vie pourrie, si j'ai la vie que j'ai ce jour-là, c'est uniquement de ma faute. C'est-à-dire que c'est mon mode de vie, c'est ce que j'ai fait pendant des années qui ont généré le niveau de malaise que j'ai ce jour-là. Et ça, c'est insupportable. Je pense que c'est une des fois où j'ai le plus pleuré de ma vie pendant le plus longtemps. Et pas de nerfs, c'est vraiment... J'étais d'un côté vraiment effondré et en même temps comme soulagé. Voilà, et c'est ce qui va me décider de rester abstinent et de commencer à l'enrayer. Et puis, j'avais rencontré une ou deux têtes, du coup, ce qui se passait, c'est que quand j'allais en réunion, il y avait des gens qui étaient là. Il y avait souvent des gens qui étaient là pour m'attendre et pour discuter avec moi, pour passer du temps. Ça a vachement contribué à ce que je reste un petit peu. Je pense que sans ces gens-là, j'aurais pas eu la force de rester. C'était trop compliqué. Voilà. Et puis un jour, j'ai trouvé un prétexte pour venir en réunion. Et puis je suis resté à Poulan. Et j'étais assez content. Je consommais plus de drogue. J'étais peut-être sur ce qu'on appelle le nuage rose ou je sais pas quoi. Sauf qu'à 90 jours clean, à peu près, je me suis levé un matin. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'étais exactement dans le même état que ce que je vous ai décrit avant, mais en étant abstinent. Et ça, j'ai été frappé par ce truc-là, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est comme c'est marqué à un endroit dans le basique, en fait, avec ou sans drogue, c'est exactement la même chose, pour un dépendant comme moi qui arrête de consommer. Et ce que je me suis rappelé, c'est que, en fait, les gens qui arrivaient à rester abstinents et qui avaient la joie de vivre, ils étaient ici. Et c'est ce qui m'a fait dire manquer. Donc, j'ai commencé à venir, j'ai pris un par un, j'ai jeté mon porte-clés 90 jours et j'en ai repris un blanc. Alors, ironie, hasard du calendrier, le 19 août, j'arrête de fumer, c'est parce que je décide d'arrêter de fumer. Ce sont en même temps les 10 ans du 10e anniversaire du décès de mon père et c'est mon premier jour de clé. C'est le 19 août. Et puis voilà, je vais. Et en fait, maintenant, ça fait 18 ans que je viens ici. Ça fait 18 ans que je grandis dans Narcotique Anonyme. C'est les 18 meilleures années de ma vie qui viennent de passer. J'ai discuté avec une amie. D'ailleurs, c'est ma plus vieille amie. C'est quelqu'un avec qui j'ai aucun rapport d'affect. Parce que, au-delà d'être dépendant à la drogue. J'ai découvert les âmes de la dépendance affective et sexuelle qui étaient déjà là avant que je consomme. Bon, j'ai mis très longtemps à pouvoir m'en rendre compte et j'ai un déni qui est très important. C'est pour ça qu'il faut que je ramène régulièrement. Je discutais ces 18 années et je lui disais, bon, tu sais, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'heureux dans la vie. Mais je pense que ce n'est pas important. Parce qu'en fait, si vraiment il y a un truc qui caractérisait, c'est que j'étais quelqu'un sans espoir avant d'avenir à Narcotique Anonyme, quand je consommais, et qu'aujourd'hui, quels que soient les événements qui sont passés dans ces 18 années, alors ça a été par la mort de mon chat, séparé de la maison familiale, le suicide de ma mère, le décès de ma grand-mère, le décès de mon grand-père, des ruptures affectives, tout ce qui fait une vie, globalement. Globalement, je suis quelqu'un qui a, depuis qu'il a découvert une puissance supérieure qui lui veut du bien, parce que ça m'a pris du temps, je suis quelqu'un qui fut mu par quand même une certaine dose d'espoir. Voilà, et je tire ma force de là-dedans. Donc les premières années d'abstinence ont été rudes pour moi. J'ai mis longtemps à concevoir un Dieu qui m'était propre. Et surtout, j'ai mis longtemps à ressentir l'effet de cette croyance. Ça m'a pris 2 à 3 années. Et pendant 2 à 3 années, j'ai rien compris de ce qui se tramait ici. J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. J'ai lu de la littérature en masse sans jamais comprendre ce qu'il y avait dedans, ou de temps en temps. Mais la réalité, c'est que quand je lisais la littérature, que j'allais en réunion, que j'appelais mon parrain tous les jours, même si ça me faisait chier, que j'allais manger avec les gens, alors que j'avais rien à foutre avec ces cons-là, que j'avais du service. La réalité, c'est que, un, j'avais pas du tout envie de consommer, j'étais jamais obsédé par ça, que globalement, ma vie, elle était meilleure, et que j'arrivais à vivre. Et que c'était mieux que quand je venais pas, même clean. Voilà. Ce qui a transformé après ma vie, c'est un samedi, et c'est le deuxième, je trouve, miracle qu'il y a ici, c'est que, en fait, moi, par exemple, quand je suis pas en forme, vers 18h, 18h30, j'ai une descente de morale qui est impressionnante. Et j'étais tous les jours happé par ce genre de trucs. Et le week-end, c'était l'après-midi. Bon, ça correspond à peu près à l'heure de rentrée de ma mère du boulot. Voilà. Et en fait, c'était une énième fois où je me sentais désespéré, abstinent, avec tous les outils autour de moi en me disant « Putain, quand est-ce que ça va fonctionner ?» Et mon parrain, à chaque fois, me disait « Tu sais, Virgile, t'as une puissance supérieure qui te veut du bien, tu peux compter sur elle, elle veille sur toi. » Ouais, ça t'arrête. Voilà. Et en fin de compte, ce jour-là, après une énième crise d'apitoiement, je me suis rappelé ce qu'on me répétait depuis longtemps, depuis des années. Et je me dis, écoute, Virgile, ça peut pas durer. Tu peux aussi accepter que tu es juste quelqu'un comme ça. Et que par contre, tu n'es pas obligé de t'abandonner à ce machin. Que tu peux aussi faire le petit truc qu'il y a après. Et puis, voilà, continuer à vivre. Et de croire que si tu fais ça, ça va passer. Et ce jour-là, vraiment, j'ai ressenti ce que ça voulait dire d'avoir un peu de croyance en un Dieu qui nous est propre. Et ce truc-là, je n'ai, je pense, dans ces 18 années, eu de cesse de l'entretenir. Vraiment, ce que je pense aujourd'hui, c'est que mon principal boulot est de respecter ce Dieu. Et c'est difficile, j'y arrive pas tous les jours. Mais en tout cas, j'ai découvert au travers du travail des étapes, et puis surtout en vous écoutant ici, hein, que j'avais des qualités, qu'il y avait des principes que j'avais été nécessairement dû développer hein, pour pouvoir... arriver à vivre abstinent, et que un de mes devoirs, mais j'y arrive pas tout le temps, c'est de respecter ces machins-là. Parce qu'à chaque fois que je le fais pas, en fait, je paye. Alors, je le paye pas en argent, en téléphone, ou je sais pas quoi. Je le paye moralement. Je le paye de la façon dont je vis mes journées. Et il faut à chaque fois que je repaye un peu pour me re-rappeler. Ah oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que quand même, depuis 18 années, tout ça s'est terriblement amélioré. Voilà, j'ai eu l'occasion de réparer pas mal, mais il reste beaucoup à faire. Entre autres, j'ai pu être les dernières années de la vie de ma mère... un bon fils, elle n'a pas eu à se soucier de ma vie de toxicomane. J'excuse pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, je lui ai pardonné. Et c'est pas une réflexion, c'est que vraiment aujourd'hui, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de ce qu'elle a fait à moi et à d'autres, mais voilà, ça s'est réglé au travers des étapes et de ce que j'ai pu faire pendant les dernières années de sa vie. J'ai pu accompagner, par exemple, les 15 dernières années de sa vie, ma grand-mère, jusqu'à son dernier souffle. Je lui ai extorqué de l'argent, je suis devenu son exécutant testamentaire. Bon, voilà, j'ai fondé une propre famille. J'ai trouvé le moyen de trouver une femme qui, pendant quelques années, a recréé exactement la même ambiance qu'il y avait avec ma mère. Voilà, j'en ai choisi une sans le savoir et voilà. Bon, après c'est quelqu'un qui fait des progrès. Bon, je l'ai quittée pendant 2 ans et elle a enfin voulu commencer à faire un travail sur elle. Alors elle n'a pas la corrosivité, elle n'est pas corrosive comme ma mère. Hein, sinon je resterai pas. Mais voilà, il y a des jours à table je retrouvais exactement le même moment. Je me dis putain, t'es quand même bien niqué mon pauvre Virgile de pas t'être rendu compte de ça avant. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai 2 enfants de 8 ans. De la même mère. C'est des jumeaux. Et j'ai réussi à réparer ce que j'avais gâché à l'école, en fait. Puisqu'après une formation, être commencé avec un bac pro, au bout de 13 années d'efforts, je suis devenu ingénieur... dans une société et ça reste difficile d'avoir attrapé le pompon, mais voilà, c'est réparé ça. le plus compliqué aujourd'hui, en fin de compte, et c'est marrant parce que c'était globalement ce que je disais, mon message de l'année dernière, c'était mes relations avec les gens. C'est-à-dire que, vu ce qu'on m'a appris, et vu les excès que j'ai fait dans la drogue, je suis devenu quelqu'un quand même de... Je peux être colérique, agressif, violent, harcelant. J'ai aussi des qualités importantes. Et du coup, moi, dans mes relations avec les gens, je suis obligé d'être vigilant. Et mon principal souci, par exemple, avec mes enfants, c'est d'être juste, d'être doux. Et j'y arrive pas tous les jours. C'est vraiment un truc que je remets régulièrement sur le tapis. Et mon problème dans cette histoire, en fin de compte, c'est que autant pour ce qui est du travail, de la moto, des meufs, de jouer de la musique, toutes ces choses-là qui sont pas forcément les plus importantes, j'ai pu remettre ça à Dieu par la force des choses. Mais pour tout ce qui est ce travail de sixième et septième étape, qui est vraiment de... Parce que j'ai fait le constat, là, depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, que mes efforts sont vains pour arriver à être un mec tout le temps gentil, etc. C'est pas la peine. En fait, mon taf aujourd'hui, c'est vraiment de me rappeler que je peux me fier à ce Dieu auquel je crois et lui demander qu'il m'aide pour ces trucs-là où moi, j'y arrive pas. Parce que vraiment, la réalité, c'est que même si mes enfants me disent que je suis quelqu'un de bon, etc., j'ai quand même des moments où ça ne le fait pas. Et ça, des fois, ça pèse lourd dans la balance. Alors, je ne les violente pas, voilà, je leur tape pas dessus, ils prennent des claques de temps en temps, mais j'aimerais pouvoir corriger cette attitude. Parce que ce qui m'a le plus détruit, en fin de compte, c'est pas qu'on essaie de me noyer dans une baignoire. C'est qu'on m'emmerde tous les jours un petit peu. Voilà. Et c'est ça, moi, qui me... vis-à-vis, que j'essaye de transmettre le moins possible à mes enfants. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous donner envie de rester. Si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Quand même, ce qui est important là-dedans, c'est que là, j'ai pas mal parlé de moi, mais ça, j'ai pu le faire que parce que je venais ici, que j'ai dit comment j'étais, que j'ai parlé de moi. J'ai été obligé de parler de moi. J'ai pas pu faire autrement. Il y a plein de trucs, j'ai reculé l'échéance. J'ai mis 13 ans à dire que j'étais dépendant affectif et sexuel, mais il faut quand même l'avouer, quand je mets la main, je mets ça là-dedans, c'est le bras qui passe avant même que j'ai dit ouf. Voilà. Mais même vis-à-vis de ça, où je me pensais vraiment qu'il n'y ait pas de solution, j'en ai trouvé par un partage quotidien avec des alliés, surtout une alliée. C'était inespéré, mais voilà, je lui dois beaucoup. Et vraiment, tout ça pour dire que, en fin de compte, si ça fonctionne pour moi, c'est parce que je suis entouré de vous. Il n'y a qu'ici que j'ai pu développer ça. Alors j'ai trouvé quelques personnes dehors aussi, hein. Mais la concentration de gens qui vont dans cette même direction, elle est ici. Et mon boulot, c'est uniquement de venir là et de dire qui je suis. Et d'essayer, voilà. Cette année, j'ai été récompensé. Vraiment, je prends ça comme vraiment un cadeau inespéré, parce que... tu vois, je me suis souvent demandé quand est-ce que je pourrais rendre ce que tu m'as fait. Et en fait, j'ai réussi à transmettre le message à des gens. Il y a déjà depuis quelques années des gens qui sont venus en réunion, qui sont partis. Cette année, il y en a deux qui ont pu venir. Et sans que je cherche, avant, j'étais souvent dans une mécanique de recherche qui n'était pas une mécanique effrénée, mais voilà. Alors que là, vraiment, c'est d'être juste à disposition. Et puis, quand le moment est venu, de pouvoir transmettre le message à quelqu'un qui en a besoin. Parce que la porte est, J'ai remarqué ça, la porte est ouverte peu de temps. Quand quelqu'un te dit, voilà, je consomme et je ne sais pas comment faire, t'as pas une idée. Cette porte-là, elle est ouverte vachement peu de temps et ça m'est déjà arrivé de louper le coche et que maintenant, je me mets à disposition des gens pour les ramener ici. Et quand je les vois revenir, ça, c'est vraiment... c'est important de pouvoir sentir ce truc-là, qu'on redonne le machin qu'on t'a filé comme ça, quoi. Surtout que moi, ça m'a sauvé la vie. J'aurais pas tenu 18 ans à ce rythme-là. Hein. Ça aurait pas été possible. Hein. J'avais déjà fait une fois de l'HP parce que j'avais peur de tuer quelqu'un au boulot. Hein. Du coup, ça aurait pas pu durer très très longtemps. Voilà, donc... vraiment, c'est... Ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone et je vais finir avec ça. Je mesurais la chance que j'avais d'avoir 18 ans clean comme ça. Je voudrais remercier les parrains que j'ai eus, mon parrain Lagdar qui est à côté de moi, vous tous, tous les filleuls que j'ai eus et que j'ai encore parce que, en fait, pendant 2-3 ans, j'ai pas eu de filleul et je me suis demandé entre 12 et 14 ans clean, j'avais pas de filleul et je me suis dit que j'allais pas y arriver si ça continuait comme ça. Vraiment, il y a eu un vide. Et en fait, je dis souvent ça, mais moi, les filleuls, ils me parlent de trucs que je ne suis pas capable de voir tout seul. C'est-à-dire qu'ils me parlent de leur dépendance, et souvent, je ne les choisis pas, mais ils ont le machin que moi, que j'arrive pas à élucider, dont je ne veux pas parler. Et voilà. Et puis aussi, je m'en rappelle que j'ai deux filleuls qui sont morts de la maladie de la dépendance. Un qui n'a pas connu clean et un autre qui avait 6 ans clean. Qui prend un problème dedans, un jour après il a pris des médicaments et puis un an plus tard, il est mort. Et qu'en fait, voilà, c'est... c'est bien d'en être là. Enfin, merci de m'avoir écouté. Merci.